Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Tournepage. Je voudrais parler aujourd'hui d'un livre qui vient d'être réédité, un livre que je trouve majeur si on veut comprendre un peu ce qui s'est passé en Russie avant 1917 et peut-être aussi ce qui se passe dans le monde actuellement. Ce livre, c'est un livre qui a été écrit par Boris Savinkov. Alors, Boris Savinkov, qui était-il ? Il est né en 1879 dans une famille de petite noblesse. Sa mère était ukrainienne. Il est né à Kharkiv actuellement. Et très tôt, il est rentré dans le chemin du nihilisme. Ce qu'on appelle le nihilisme en Russie à l'époque, le mot a été mis en valeur par Turgenev dans son roman « Père et fils ». Le nihilisme, c'était des gens qui pensaient qu'il fallait détruire la société pour qu'après puisse surgir une société nouvelle hors des abus du tsarisme. Alors, il a commencé des études, il a été arrêté, il a été déporté. Il est revenu et ce qui est intéressant historiquement, c'est que c'est lui qui a organisé deux attentats meurtriers, deux assassinats plutôt, qui ont fait couler beaucoup d'encre. Le premier, en 1904, il a organisé l'assassinat de Plève, qui était ministre de l'Intérieur. Un an plus tard, en 1905, il a organisé l'assassinat du grand-duc Serge, gouverneur de Moscou. Le grand-duc Serge était l'oncle du tsar Nicolas II, en même temps qu'il était son beau-frère, puisqu'il avait épousé la sœur aînée de la tsarine Alexandra. Ces deux attentats ont fait couler beaucoup d'encre, d'autant plus qu'on a su, plus tard bien sûr, que celui qui menait les opérations dans l'ombre s'appelait Azef. Et Azef, c'était un agent infiltré de l'Okhrana, la police secrète tsariste. On voit que dans ce milieu trouble, il n'était pas toujours facile de s'y retrouver. En 1906, il a été condamné à mort. Il s'est réfugié en France. Il y avait en France tout un cercle de terroristes russes. Mais Savinkov, apparemment, était resté en dehors de ces cercles-là. Et il s'est toujours posé la question, est-ce que le terrorisme tel que il le pratiquait, est-ce qu'il pouvait avoir une justification morale? Il a écrit plusieurs livres, et ces livres ont eu un impact assez fort sur les intellectuels français, et notamment sur Albert Camus. Albert Camus s'est inspiré de Savinkov pour écrire sa pièce « Les Justes », à propos de l'assassinat du grand-duc Serge. Et ça n'est aussi inspiré pour écrire une partie de son livre majeur, L'homme révolté. Alors, Savinkov, qu'est-ce qu'il est devenu au moment de la révolution bolchevique ? Eh bien, il n'a pas supporté. Il a rejoint les armées blanches. Il est reparti à l'étranger. Et en 1924, des agents de la police secrète russe, ce n'était plus l'Okhrana, c'était la Tchéka, ont réussi à le persuader qu'une troupe était prête à l'accueillir en Russie. Il est rentré clandestinement en Russie et évidemment, il a été arrêté. Et une fois emprisonné à Moscou, il a décidé de rallier les bolcheviks, mais il est resté emprisonné. Il a écrit à Dzerzhinsky, le chef de la Tchéka, et puis voyant que ça ne donnait rien, il s'est suicidé en 1925 en se jetant dans la cour de la prison. Alors maintenant, revenons, si vous voulez bien, à ce livre qui vient d'être réédité, qui s'appelle « Ce qui ne fut pas ». C'est paru aux éditions Prairial, c'est vendu au prix de 21 euros. Alors, tout tourne dans ce livre, qui est, on va dire, relativement important, enfin, je veux dire, relativement épais, qui fait presque 500 pages. Tout tourne autour de ce qu'on a appelé la première révolution russe, celle de 1905. En 1905, il y a eu des troubles qui ont été fomentés, des grèves, des soulèvements. Il y a eu le fameux dimanche sanglant en janvier, mené par un prêtre dont on a appris par la suite qui était un agent provocateur de l'Okhrana, la police secrète russe. Et les personnages, visiblement inspirés par des personnages réels que Savinkov a fréquentés, sont sans cesse tourmentés par des questions. Et voici, par exemple, un des héros, Bolotov, se trouve sur une barricade. Il regarda par-dessus l'épaule de Pronka. Il lui semblait qu'il n'y avait pas une minute à perdre, que le moment était propice pour ouvrir le feu. Il était déjà habitué à voir les troupes de sang-froid sans être troublé par la joie à attendre leurs attaques. Il était sûr d'avance qu'à Moscou, aucun régiment d'infanterie ne tiendrait sous le feu des barricades, qu'aucun officier n'oserait forcer ses soldats à s'exposer à une mort certaine et absurde. Peut-être parce que depuis longtemps était né en lui et avait grandi cet instinct de loup, de chasseur qu'il ne connaissait pas auparavant. Il vit qu'il n'était pas le seul en proie à ce sentiment, mais que tous attendaient avec impatience l'ordre de Serge pour commencer à tirer. Enfin, sans enthousiasme, il commanda « Feu !» Aussitôt, à qui mieux mieux, crépiquèrent tous les revolvers, les fusils de la compagnie. Bolotov tirait aussi, il avait choisi pour cible un maréchal des logis moustachu, roux, le premier du premier rang. Longuement, soigneusement, il visa, en s'efforçant d'estimer exactement la distance et de ne pas manquer le but. Il ne pensait pas qu'il visait un homme. À ce moment, le maréchal des logis n'était pour lui ni un homme, ni même un ennemi, c'était un objet inanimé, une cible sur laquelle il devait tirer et qu'il ne devait pas manquer. Quand enfin il abaissa la gâchette, que la fumée se fut dissipée, il vit que les dragons enfourchaient hâtivement leurs chevaux et que le maréchal des logis n'était pas blessé. Toute la compagnie tirait sur eux, mais les coups trop courts qui ne les atteignaient pas. Sur la neige battue, piétinée par les sabots, deux corps humains gisaient près d'un beau cheval qui, dressant la tête, sautillait sur trois jambes. Constantin s'écria « Les gars, l'officier est tué, je vous jure, je vais voir !» Et voici d'autres points où notamment Savinkov nous fait pénétrer dans l'organe directeur du parti, disons, nihiliste. Et malheureusement, il se rend compte que ces gens qui sont là, qui sont dans la clandestinité, qui discutent beaucoup, mais finalement ne font pas grand-chose, ces gens-là, ils n'arrivent plus à y croire. Et ils n'arrivent plus non plus à croire que ce qu'il a lu dans Marx ou ailleurs est la vérité. Et pourtant, quelque part, il sait qu'il faut continuer. On revient sur une des barricades. Sous la porte cochère, le calme était revenu. Volodia, sans aucun espoir, regarda de nouveau le mur élevé. Il était lisse, sans la moindre saillie, de plus de 4 mètres de hauteur. Les yeux toujours froncés, il s'assit par terre, derrière le bois. En passant sa main dans la fente pour tirer, il s'était profondément enfoncé une écharpe dans l'endroit, en souffrait. Il restait assis, immobile. Ne pensant à rien, sentant l'impossibilité de fuir, ne tâchant même pas de se sauver. La terre était jonchée de copeaux mouillés, il en ramassa un, long, pointu, bordé de goudron sec, et sans savoir pourquoi l'agita en l'air. Il se rappelait sa jeunesse, une cour aussi vaste, le ciel aussi bleu, des tas de bois pareils, et lui, un garçon gai qui jouait au cricket. C'est beau, un beau jeu, se dit-il avec un sourire. Il en eut assez d'être assis sur la terre mouillée, lavée par l'eau de la veille. Il se leva, la tête penchée, comment en deux son immense corps, il se faufila le long du mur. Pourquoi, il l'ignorait. Maintenant, il semblait qu'il était seul, que la police était retirée, qu'on ne le trouverait pas. Mais soudain, les fusils crépitèrent par salve, les balles sifflèrent plaintivement. « Je n'y échapperai pas », pensa Volodya, « bien, soit. » Et se redressant soudain, à découvert, exposant ses fortes épaules et sa poitrine tranquillement, presque avec indifférence, il examina les soldats de derrière le tas de bois. À la visière, il reconnut des grenadiers. Il visa, se mit à tirer. Il tirait sans interruption, rechargeant constamment, chaque fois, visé soigneusement. Il n'aurait pu dire s'il tira longtemps. Il sentit brusquement un coup violent sur l'épaule, comme un coup de fouet. Il ne comprit pas d'emblée qu'il était blessé. Sa chemise se mouilla et du sang coula sur son veston. Ce n'était pas douloureux, et Volodya, négligeant sa blessure, toujours à découvert en vue des soldats, continua sa fusillade désespérée. Alors, un des grands mérites de ce livre, c'est de nous faire entrer dans la mentalité de gens qui ont choisi le terrorisme, qui n'hésitent pas à mourir, même pas se sacrifier pour, c'est normal, mais n'hésitent pas non plus à tuer. Et peut-être, c'est une idée qui m'est venue bien sûr en lisant ces livres, peut-être certains passages de ces réflexions de Savinkov peuvent-ils nous aider à mieux, pas forcément comprendre, mais à mieux cerner la personnalité de ceux qui, aujourd'hui, on appelle ou s'appelle des terroristes. Je vous remercie de m'avoir écouté.